Voilà. Allez-y, là.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Très, très heureuse de vous retrouver très, très, très nombreux. Merci du fond du cœur. J'espère que vous avez passé un bel été et que nous allons poursuivre un bel automne. Alors, je n'ai pas le culte de la personnalité, mais je vais vous dire, cherchez l'intrus pour la première image, quand on aura fait l'obscurité. Alors, où est-ce que j'ai bien pu rencontrer Gert Morisot, Degas et Renoir, à votre avis? Je commence par une interrogation écrite en râle. Non, non, j'ai pas triché. C'est une photo, une vraie photo. Elle est sur l'appareil encore. Ah ah! Musée? Musée Crémin, exactement. J'ai entendu ma petite cousine cet été. Qu'est-ce que ça m'a surprise de rencontrer les impressionnistes? Alors, bien sûr, Claire m'a dit, Claudie, va au milieu. Alors, j'ai penché la tête pour qu'elle ne me reconnaisse pas trop. Mais les cheveux trahissent sur les cheveux. Voilà, donc ça, c'était mon petit clin d'œil amical, bien sûr. Et on va maintenant passer aux choses sérieuses. Par contre, j'aime beaucoup. Voilà, vous pouvez laisser. Voilà. Dans la flèche, oui, voilà. Ok, c'est gentil, merci. De toute façon, est-ce que ça ne gêne pas de publier? Là, ça vous gêne, je pense, non? Ça va? Voilà, parce que pour la biographie, voilà. La biographie, vous savez que je la fais succincte, mais je ne la fais pas par cœur. Hein. Je ne suis pas une fan des dates, ceux qui me connaissent bien maintenant, vous le savez tous. J'ai oublié de souhaiter la bienvenue aux nouveaux, parce que je suppose qu'il y a des nouveaux, aux nouvelles. À vous, bienvenue et merci. Alors, donc vous avez pu le voir sur Internet dans ce que j'avais écrit. Nous commençons donc cette année par Degas. Nous suivrons donc par Berthe Morisot, c'est pour ça qu'elle était aussi présente. Par contre, Noir, c'est pas tout de suite, hein, ça viendra plus tard. Mais il y en avait au moins deux présents sur la photo du musée Crémin. Alors en fait, notre ami Edgar Degas, né en 1834, mais au départ, il s'appelle, alors il a un nom un petit peu à rallonge, il est Germain Edgar, c'est son dernier prénom, c'est celui qu'il va conserver, de, plus loin, Gas, G-A-S. Ça s'est toujours écrit comme ça au départ. Alors tout de suite, je vais me permettre de faire une petite intervention là. Si vous allez voir les biographies sur Internet, alors vraiment là, immense méfiance. J'en avais une là qui avait été prise sur Internet, elle est truffée d'erreurs. Il y a des erreurs monumentales. Donc, notamment sur Wikipédia où les gens écrivent. Alors, au moins qu'ils prennent les biographies sérieusement dans des catalogues là, oui, mais quand c'est vraiment du n'importe quoi, c'est vraiment. Donc, méfiez-vous. Si vous voulez avoir une biographie plus détaillée, parce que moi je vais passer relativement vite tout de même, allez dans des catalogues d'exposition. La nature de la société par des historiens d'art, donc c'est juste. Méfiez-vous quand même toujours d'Internet. Voilà. Et notamment de Wikipédia. Vous savez pourquoi. Voilà. Merci. Alors, il est issu d'une famille de banquiers prospères qui sont à la fois à Naples et à Paris. En fait, Naples, c'est parce que la famille, le père de Gas, Auguste, est né à Naples. Sa mère, elle, qui s'appelle Marie-Célestine Musson, de son nom de jeune fille, est originaire de la Nouvelle-Orléans. Donc, vous voyez, ça fait un beau mélange dès le départ pour notre ami Edgar. Il aura des frères et sœurs, donc là, je passe très vite. Ce qui est intéressant pour nous, dans les années 45-53, il va fréquenter le lycée Louis-le-Grand à Paris. Donc, le lycée qui est quand même un lycée d'envergure, hein. Là. Et au lycée Louis le Grand, il va entre autres rencontrer Paul Valpinson, qui sera de toute façon quelqu'un avec qui il restera en amitié jusqu'à la mort, je vais dire. Hein. Ils sont vraiment liés durant toute leur vie. Sa maman meurt relativement jeune, âgée de 32 ans en 1847. En 53, donc dernière année qu'il passe à Louis-le-Grand, il est reçu bachelier et il va dès cette année-là, c'est pour ça que 53 pour moi est une année importante, parce qu'il va s'inscrire comme copiste au Louvre. À l'époque, on ne pouvait pas comme ça aller avec son petit carnet, on s'inscrit directement en tant que copiste, donc on a des passements pour entrer.
Et il va également s'inscrire cette même année comme copiste au cabinet des estampes de la bibliothèque impériale. Elle n'est pas encore nationale, elle est impériale à cette époque-là. Et c'est aussi cette même année qu'il va exécuter son premier dessin qui va représenter son frère Achille. Alors, je vais un petit peu avancer. Là, je vous ai mis donc une copie d'après la baigneuse de Valpinçon de Ingres. Alors, je vais y venir à Ingres très vite. C'est vraiment un de ses peintres préférés. Hein. Donc, il le copie très vite. Alors, j'ai souhaité que nous commencions par un dessin parce qu'aujourd'hui, dans mon propos, dès que j'aurai terminé la biographie succincte, je ne vais pas le traiter de gars de façon tout à fait chronologique parce que je trouve, comme vous avez pu le lire dans le petit encart que j'avais fait sur lui, c'est quelqu'un qui a vraiment œuvré pour ce qui, moi, m'importe beaucoup dans mes propos, c'est-à-dire la modernité. Et j'ai souhaité, nous l'avons fait d'un commun accord avec M. Collin, que je remercie au passage, hein, puisque fidèlement, malgré mes... je sois quand même très pénible, il a bien voulu encore cette année continuer à s'occuper de moi, donc... Je le remercie sincèrement à votre nom à tous parce que vous n'auriez pas toutes ces images s'il n'y avait pas M. Collin, étant donné que je ne vais pas sur l'ordinateur. Et donc, d'un commun accord, nous avons choisi de travailler plutôt par thème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous verrez beaucoup de dessins et des sculptures. Et puis, la fois prochaine, nous verrons d'autres choses. Hein, voilà. Donc, on va, puisque c'est sur deux séances à chaque fois, nous travaillerons selon les peintres. Pour Berthe Morisot, ce ne sera pas du tout de cette façon-là. Mais pour Degas, j'ai préféré, c'était plus constructif. Hein, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai souhaité commencer par un dessin qui est déjà très parlant, parce que là, il n'a encore aucune formation, si vous voulez. Hein, mais on voit déjà qu'il y a un coup de crayon qui commence à déjà devenir, j'ai envie de dire, sûr. Alors, vous allez voir qu'après, il va s'affirmer de plus en plus. Mais déjà ici, c'est pas mal. Donc, je vais poursuivre. Alors, j'ai une chance sur deux de me tromper pour la prochaine diapo. C'est bon, je ne me suis pas trompée. Tout de suite, nous avons souhaité vous le montrer plutôt en autoportrait peint, donc peinture, plutôt que de montrer une photo. Hein, donc voilà, alors vous voyez, là, il est tout jeune, hein, 55-56. Il n'est pas encore 55. C'est justement l'année qui est également importante après 53. Puisque c'est l'année où il est admis sur concours à l'École des Beaux-Arts, section peinture et sculpture. Et il a pour maître Louis Lamotte, avec qui il se fâchera ultérieurement. Mais dans l'immédiat, c'est son maître. Et c'est justement cette année 55 où il va visiter, en compagnie du père de son ami Paul Valpinçon, le père de son ami est un grand collectionneur, et il va lui permettre de visiter l'atelier de Jean-Auguste Dominique Ingres. Donc c'était vraiment très très important puisqu'il était déjà très intéressé par Ingres dans ce qu'il avait pu en voir au musée du Louvre, mais là il va carrément visiter son atelier. Il visitera également l'exposition universelle où justement il y avait des dessins d'Ingres, donc là encore il copiera des dessins d'Ingres. Et il va venir dans notre région, pas très loin, puisqu'on va le retrouver à Lyon, cette même année 55, où il fera la connaissance du peintre néoclassique Hippolyte Flandrin. Flandrin, vous le voyez souvent dans les musées de province, hein, donc c'est un nom que vous pouvez retenir. Hein. Et Flandrin, justement, travaille à des fresques avec Louis Lamotte, donc le maître de Degas. Alors, il va bouger cette année-là. On va le retrouver dans le midi de la France, entre autres. Hein. Bon, je vous passe le détail des villes. Et en 56, c'est la première fois qu'il vient en Italie. N'oublions pas que ses origines, par son père, sont en Italie. Donc, il va séjourner à Naples assez longtemps, où il va faire des copies. Et il va rencontrer donc sa famille, qui est la famille Bellelli, Hein, je vous avais parlé de ce tableau de la famille Bellelli, qui est vraiment un tableau d'avant-garde, hein, que nous aurons l'occasion de commenter. Hein, voilà. Et après, il va séjourner à Rome. Il va quitter donc Naples pour séjourner à Rome. Il restera à Rome jusqu'à fin juillet 57. Alors, à Rome, bien sûr, il va fréquenter la Villa Médicis. Hein, donc, là encore, c'est pas n'importe quel lieu, bien entendu. Il va beaucoup exécuter de copies. Il continue hein, de travailler. Et ça, c'était vraiment ce que l'on souhaitait pour les élèves, d'aller copier les maîtres d'autrefois. Hein. Je vous renvoie, pour ceux qui viendraient pour la première fois, à l'ouvrage d'Eugène Fromentin, « Les maîtres d'autrefois ». Eugène Fromentin, je vous envoie également un autre ouvrage qui s'appelle Dominique, hein, qui est un ouvrage magnifique, ceux qui aiment la littérature, vraiment, allez lire ces deux ouvrages. Mais il était vraiment important pour les jeunes artistes de copier les maîtres d'autrefois. C'est comme ça que l'on apprenait. Hein. Malheureusement, nos écoles d'art trop conceptuelles aujourd'hui oublient que le dessin existe et que c'est capital. Et ça, j'insiste lourdement. Alors, il va également faire des esquisses de scènes de rue. Il est toujours avec ses carnets. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de vous montrer des carnets de dessin aujourd'hui. Il reviendra à Naples cette même année 57. Et puis, il va faire des voyages comme ça entre Naples et Rome. Quand il reviendra à Rome, eh bien, il ira beaucoup à la chapelle Sixtine, justement, faire également des dessins. Il fera des études également pour Dante et Virgile. Et à l'automne donc de cette année 57, il va faire la connaissance de quelqu'un qui est à Rome à ce moment-là, qui s'appelle Gustave Moreau, et qui va avoir une influence tout à fait capitale pour lui. C'est le premier séjour de Moreau à Rome. Et il va connaître également d'autres peintres, mais qui sont moins importants. Voilà, donc je ne vous embarrasse pas avec leur nom. Alors, bien sûr, il s'est lié d'amitié avec Gustave Moreau et puis d'autres peintres français. Il va, au mois de juillet 58, se rendre pour la première fois à Florence. Et là, il va s'arrêter à Assise, à Orvieto. Il va faire plusieurs lieux avant d'arriver à Florence. Et il restera à Florence jusqu'en mars 59. Donc, vous voyez, à chaque fois, il reste quand même suffisamment de temps pour justement visiter les musées, faire des dessins, disons, travailler à son futur devenir. Et il va beaucoup aller aux offices où il effectuera de très, très nombreuses copies. Alors, je vais un petit peu avancer dans mes... Voilà, là je vous montre, et on tombe dans l'année 56, hein, un nu masculin. Donc vous voyez, il y a déjà quand même quelque chose de fort hein, dans le... Et je dirais, on voit déjà le style Degas qui apparaît, voyez, dans cette partie-là par exemple. Et puis même dans la façon de traiter le corps en général, hein, on va le retrouver après avec d'autres, dans ses autres personnages. Et puis voyez aussi un visage là sur lequel il met tout de même l'accent. Donc, voilà la façon. Là, je ne veux pas trop commenter ceci. Alors, il va faire des portraits des membres de sa famille. Hein. Ici, c'est son frère, Achille, donc en uniforme militaire. Donc, des choses qui sont... Là, ici, il n'a pas, en 57, il n'a pas encore rencontré Manet. Mais on est un petit peu déjà dans cet esprit, vous voyez, là. Quelque chose, quand je pense au fifre de Manet, hein, eh bien ici, on pourrait presque... Alors là, on ne peut pas lui reprocher qu'il n'y a pas de fond, parce que, vous voyez, ce petit détail-là fait qu'il y a un fond. Et puis le détail ici, mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est celui-ci. Parce que, vous voyez, c'est très, très, très léger, mais néanmoins, suffisamment significatif pour qu'on ne lui fasse pas le reproche qu'on fera à Manet. Alors, je continue de présenter la biographie. À partir de la mi-novembre de cette année 58, il commence vraiment à travailler donc à ce portrait de groupe, ce tableau capital qui est donc la famille Bellelli. Il continuera d'y travailler en 59 Et fin mars 59, il quittera Florence pour revenir sur Paris. Il a passé presque 3 ans en Italie. Il a appris seul. Il ne s'est pas inscrit dans des écoles. Hein. Donc, il a appris à sa guise, sans tutelle de maître. Et par contre, il a été très influencé, très motivé par la personnalité, les idées et l'expérience de Gustave Moreau. Ça, cette rencontre pour lui est tout à fait capitale. Alors, en avril 59, il va se rendre au salon et sera très, très impressionné par les tableaux de Delacroix, entre autres, hein, qu'il va copier dans ses carnets de croquis, justement. Gustave Moreau est resté quelque temps en Italie. Il reviendra en septembre à Paris. Entre-temps, Degas prendra un atelier personnel. Hein, et en 60... il va exécuter des croquis. Vraiment, le dessin le passionne. Il va exécuter des croquis rapides d'après des tableaux de Delacroix, entre autres le Christ marchant sur le lac de Génézareth et un autre qui s'appelle Mirabeau et Dreux Brézé. Il va s'embarquer à Marseille pour Naples au printemps. Donc, il retourne à Naples. Son grand-père est décédé. Très vite, il va quitter Naples pour Florence et en mai, il revient à Paris pour l'inauguration du salon où il ne présente aucune toile. En janvier, René Degas écrit à son oncle Michel Musson qui est à la Nouvelle-Orléans, je vous cite là la phrase, Edgar est tellement absorbé par sa peinture qu'il n'écrit à personne malgré nos représentations. Quand ses vœux qui sont les nôtres se réaliseront-ils? Le violon, alors il parle de lui là, le violon va toujours mais très lentement, Edgar l'apprend aussi. C'est là l'unique référence connue à Degas, Edgar Degas le peintre jouant du violon. Donc on ne sait pas après, de toute façon ce que l'on sait c'est qu'il n'est pas devenu musicien. Ça c'est une certitude. Toujours ce qui m'intéresse autour de cette même année, il y a le père de Degas qui écrit à son beau-frère, donc Michel Musson à la Nouvelle-Orléans, « Notre Raphaël, donc vous voyez le lien, travaille toujours, mais n'a encore rien produit d'achevé. Cependant, les années passent. » Donc la famille, parce qu'au départ, le père aurait voulu qu'il soit banquier comme lui, qui a bien voulu qu'il devienne peintre, commence à un petit peu s'impatienter parce que il travaille, mais il se passe rien de vraiment concret parce que voilà, c'est des petites choses comme ça, mais pour eux, c'est pas encore la consécration, bien sûr. Hein. Donc, je vais continuer de vous montrer d'autres œuvres. Eh bien, voilà donc le portrait de René Hilaire Degas, donc le grand-père de l'artiste, hein, en 1857. Là, il y a beaucoup d'ingres. Si vous regardez les portraits d'Ingres, là, on est tout à fait dans ce style plutôt classique. Alors, regardez tout de même, quand je vous dis que le dessin est capital, regardez attentivement cette main. Elle est extraordinaire. Si vous n'apprenez pas le dessin, comment voulez-vous produire une main de cette qualité? Hein? C'est impossible. Et même celle-ci, regardez. Hein? Mais c'est vrai que moi, le visage, vraiment, je vois les visages d'Ingres. Ingres est un peintre que j'affectionne particulièrement, moi qui aime plutôt la modernité, mais à sa façon il a de la modernité Ingres, hein. Il n'est pas que classique, que néoclassique, hein. Et puis alors là bien sûr vous avez un fond, hein, qui est présent là sur ce portrait, hein. Voilà. Donc je passe l'image suivante. Alors ici c'est donc une de ses sœurs, hein. Entre 1858 et 1860, bon, on va rester un petit peu sur cette... Parce que là, c'est pareil, on retrouve bien le style Degas, hein, pour ce fond, que l'on va retrouver avec les danseuses, avec les jockeys, on va retrouver ce style de peinture, alors qui sera bien sûr beaucoup plus travaillé par la suite, mais c'est déjà un petit peu en gestation ici. Hein. Alors, en 62, eh bien, on le retrouve toujours comme copiste au Louvre. Et il fait la connaissance, cette année 62 également est importante, parce qu'il fait la connaissance d'Édouard Manet. au Louvre, alors que lui-même copie du Velázquez. Vous voyez, ils se retrouvent au Louvre tous les deux. Alors, à propos de Manet, eh bien, je vais vous donner quelques petites indications rapides. En fait, Degas, il a beaucoup suivi Manet dans la voie de la modernité, bien sûr. Il est attiré, je vous l'ai dit au départ, par Ingres, par l'élégance du dessin d'Ingres, par la simplicité aussi, parce que Ingres a des dessins très, très simples. Et vous verrez, quand je vous montrerai tout à l'heure la partie sur les dessins de Degas, les dessins de Degas, justement, puisent leur force dans toute cette immense simplicité. Et, en fait, si vous voulez, Degas refuse la facilité, lui, très vite, hein, dans son travail, comme et il ne savait, il refusait tout ce qui n'était point pour lui l'unique objet de ses pensées. Hein. C'est quelqu'un qui va vraiment avoir une mémoire sélective, mais pas que la mémoire, qui va être sélectif pour tout. D'ailleurs, on sait que Degas, finalement, on va peu le voir avec les autres. Hein. On va le voir un petit peu au café Gerbois, hein, il va y aller, bien sûr. Mais c'est quand même quelqu'un qui va, puisque justement, il va refuser, lui, le plein air. Hein, il va même être terrible, il va être cinglant par rapport à cela. Et il va travailler beaucoup dans son atelier. Et peu trouve grâce à ses yeux. Hein. C'est un petit peu, au niveau caractère, c'est un petit peu à quelqu'un qui peut nous faire penser, après, quelqu'un qui peut lui ressembler par la suite, c'est Gauguin. Hein, c'est des personnalités comme ça, très, très fortes, mais relativement solitaires. Donc il va aussi avoir des échanges plutôt épistolaires avec le peintre James Tissot, hein, qui lui aussi va être un peintre impressionniste, mais qui sera peu en France finalement. Hein. Il s'était certainement rencontré dans l'atelier de Lamotte. Hein. Alors pour passer relativement vite. En 63, lors de l'ouverture du Salon des Refusés, il n'y a aucune œuvre de Degas qui est accrochée dans cette exposition. Hein, donc ça, c'est pour nous important aussi, parce qu'il ne va pas les côtoyer. Vous voyez, quand je vous dis qu'il est un peu solitaire, ça se sent même ici. Alors, ce que l'on sait, c'est que Degas, eh bien, il a des cousines qui sont dans la région de Bourg-en-Bresse, donc il va souvent séjourner pas très loin de chez nous. Alors ça, je vous le dis parce que quand je peux trouver des petites choses comme ça, des petites anecdotes, mais qui sont vraies. Hein. Donc, on sait que notamment dans l'année 62, pour la fin de l'année, eh bien, il passe le nouvel an à Bourg-en-Bresse. Voilà, donc il est dans notre région. Et on le retrouve encore à Bourg-en-Bresse, donc au mois de janvier, où là, eh bien, il continue de faire des esquisses alors de sa famille, de ses cousines, de ses des maris, des cousines, etc. Hein, voilà. Alors, René Degas, donc le frère, écrit toujours à la famille restée à la Nouvelle-Orléans dans ces années-là. Edgar travaille toujours énormément, sans en avoir l'air. Ce qui fermente dans cette tête est effrayant. Pour ma part, je crois et suis même convaincue qu'il a non seulement du talent, mais même du génie. Seulement, exprimera-t-il ce qu'il sent ? Et il termine par « That is the question ». Ça leur pose problème quand même, cet Edgar, hein, voyez. Mais après, nous qui connaissons la suite, on va dire tant mieux, parce que ça valait le coup, travailler énormément et puis d'attendre. Alors, en mai, ben, il a une fois de plus rien présenté au salon, hein, ça ne change pas beaucoup. Par contre, il va se rendre, de nouveau, on le retrouve encore à Bourg-en-Bresse en 65, donc vous voyez, il y va, moi après j'en parlerai plus, il y va régulièrement. Hein. Mais, le 1er mai, pour la première fois, Degas présente en 1865 donc une œuvre au salon. Il a 31 ans. Donc vous voyez, il commence de. Là, il sent qu'il y a une maturité, il va proposer une œuvre. Cette œuvre s'intitule C'est un pastel. Vous savez qu'il va affectionner le pastel, hein, il y aura énormément de pastels. Cette œuvre s'intitule Scène de guerre au Moyen-Âge. Alors, voilà, l'œuvre n'est quasiment pas remarquée par la critique. Voilà, il n'en présente qu'une. Voilà. Alors, c'est vrai que il va copier pas mal de maîtres italiens au Louvre dans ces années-là. C'est, dans sa biographie, il y a quand même pas mal de périodes où on ne sait pas grand-chose. Hein. Donc, on va passer directement en 1867, parce que là, Delacroix était mort un petit peu avant, mais là, il y a une mort qui est très importante pour Degas, parce qu'il est tellement admiratif, donc il va être particulièrement touché, c'est Ingres. Ingres, donc, qui meurt en 67, et bien sûr, l'École des Beaux-Arts va réaliser une vaste rétrospective. Donc, c'est très important parce que il va pouvoir se ressourcer, s'imprégner encore plus de ce maître qu'il affectionne. Il va exposer deux peintures au salon, notamment, vraisemblablement, hein, ça on ne sait pas trop, la famille Bellelli, là, il est probable qu'il l'expose à ce moment-là. En 67, il va aller plusieurs fois à l'exposition universelle. Et puis, quand il était en Italie, il a beaucoup aimé le travail de Giotto aussi. Et curieusement, dans un carnet, il va écrire, donc cette année 57, « Ah, Giotto, laisse-moi voir Paris, et toi, Paris, laisse-moi voir Giotto. » Donc, cette phrase aussi simple est-elle, sous-entend quand même beaucoup de choses. Hein. Donc, notamment cet intérêt qu'il a pour cette peinture italienne de cette époque-là. Alors là, je vous montre, il y a la naissance un dessin d'après la naissance, une copie d'après la naissance de Vénus de Botticelli. Hein. Ah. C'est peut-être Degas qui nous appelle. Comme il était novateur, il connaissait peut-être déjà les portables. Donc, Vénus n'a pas bronché, hein, elle n'a pas bougé. Donc, vous voyez que c'est quand même très, très proche. Hein, on sent. Mais il n'y a pas, dans celui-ci, il n'y a peut-être pas la force qu'on va trouver. Parce que là, du fait que c'est une copie, il reste fidèle. Et après, vous allez voir vraiment, quand Degas va exploser et vraiment faire du Degas, les dessins vont prendre quelque chose de plus fort, hein, de plus puissant. Mais c'est bien de voir son évolution, hein. Alors là, je vous montre différents dessins. Hein. Là, je vais justement vous les laisser pendant que je vais continuer un petit peu. Ça, comme ça, vous avez le temps de les regarder. Alors, donc, je continue je vais essayer d'être assez rapide pour continuer. Mais en même temps, ça me permet de vous montrer des choses. Hein. Ce n'est pas comme si je ne vous montrais rien. En 68, on le retrouve à Paris au café Gerbois, dont je vous parlais, hein, ce fameux café où on retrouve les impressionnistes et puis les artistes en général. Hein, rue des Batignolles, maintenant, cette rue des Batignolles, elle s'appelle avenue de Clichy, hein, donc on est dans le bas de la butte Montmartre. Hein. Alors évidemment, il y a des débats très importants dans ce café sur la vie moderne, entre guillemets. Hein. Alors, les habitués, eh bien, c'est Manet, Monet, Pissarro, Basile, Renoir, Fantin-Latour, Zola. Donc, il va rencontrer tous ces artistes. Il s'inscrira pour la dernière fois comme copiste au Louvre cette année 1868. Voilà. Alors, on sait qu'il a des contacts avec Manet, qui va lui proposer, cette même année 68, de l'accompagner à Londres, mais apparemment, ce projet n'a pas donné suite. Mais voyez, donc, les liens avec Manet étaient quand même proches. Hein. Et Degas va exposer de nouveau au salon de l'année 1869. On sait que cette même année 69, il a probablement fait la connaissance de Berthe Morisot, et il aura des liens relativement étroits avec elle. Donc, c'est pour ça que c'était important que la même année où je traite ces deux artistes la même année, hein, il fait la connaissance également de la sœur Gobillard, hein, Yves. Elle s'appelle Yves, mais vous savez que c'est une femme, hein, la sœur de Berthe. Et donc, il va faire des études pour la famille Gobillard ou Morisot, hein. Voilà. Pour continuer dans les choses que je considère importantes, il va, mais bien sûr, pendant Degas va s'engager en 70. Hein, ça, c'est quand même aussi, c'est moins important sur le plan artistique, mais c'est important tout de même. S'engage comme volontaire dans la garde nationale et Degas sera assigné au bastion 12 des fortifications au nord du bois de Vincennes. Il aura pour capitaine Henri Rouard. Et à partir de ce moment-là, Henri Rouard et son frère vont devenir des amis vraiment intimes également et des collectionneurs, ça c'est très important, des collectionneurs de Degas. C'est pour ça que cet épisode de 70 est important également. Il va continuer de servir dans l'artillerie et finalement il sera démobilisé après le 18 mars 1871, où là il se rendra auprès des Valpinson. Alors, je ne sais pas si les portraits viennent tout de suite, peut-être un peu après, donc je vais avancer un petit peu. Ici, vous avez une femme au bain. Voilà. Donc, vous voyez toujours... moi, je trouve quand même une réelle modernité, déjà. Hein, nous ne sommes qu'en 55-56, mais le fait, vous voyez, d'entrer dans ce tableau, comme ça, d'avoir cette grande partie, parce que cette femme, elle pourrait être au tout premier plan. S'il avait vraiment voulu faire mettre l'accent sur le nu. Alors que là, vous voyez, il y a tout un travail de cadrage, un travail de... chez Degas, il y a vraiment une... Il considère vraiment l'espace. Pour lui, c'est important. Hein, et on le voit bien, la façon dont on entre dans ce tableau. Et à la limite, on pourrait presque dire que ce qui compte dans ce tableau, eh bien... C'est donc cette partie-là, la partie par laquelle on pénètre dans le tableau, cette partie-là qui est très intéressante parce que moi, quand je vois cette serviette de bain qui est suspendue là, ici, eh bien, ça nous fait tout simplement penser à un tableau de Tom Wesselmann, qui est un pop artiste des années 70, qui s'appelle « Nu dans la salle de bain », où on introduit une vraie serviette de bain, un vrai rideau de douche, il y a un vrai bouton électrique, etc., etc. Mais finalement, il n'a pas donné, Tom Wesselmann n'a pas donné plus d'importance à la serviette, au drap de bain, que n'en donne ici. Au niveau de la taille, c'est quasiment la même taille que la jeune femme de dos. Vous voyez ? Donc, quelqu'un qui va vraiment appréhender, voilà, je cherchais le mot tout à l'heure, qui va appréhender l'espace de son tableau. Hein ? Ça, c'est vraiment très important pour Degas. Et finalement, ce fond aussi qui est relativement intéressant. Et le jeu, alors bien sûr, tout est lié à ce blanc qui automatiquement, là, nous renvoie vers le corps de la jeune femme. Il n'y aurait pas la baignoire très blanche et puis le travail de la peinture blanche, hein, qui est considérée là quasiment comme un... La peinture deviendrait presque ici sujet de la toile. Hein, je dis presque parce que nous ne sommes pas encore chez les fauves, mais voyez, quand je dis qu'il a contribuer à la modernité, là on le voit, parce que le blanc sur lequel il a beaucoup travaillé là pour cette baignoire, parce que vous voyez, c'est pas la forme de la baignoire qui est intéressante, hein, c'est plus la forme ici c'est plus la peinture, si vous voulez, qui l'intéresse, hein, et puis donc cette jeune femme qui va, qui est là que parce que le blanc nous emmène vers le corps de la jeune femme. Alors, je passe la suivante. Voilà, là, il y a encore des dessins. Donc, vous voyez, ça prend... regardez notamment le dessin du bas. Le trait s'affirme. Et il y a très peu de choses, vous voyez. Très peu de choses, mais qui créent néanmoins le personnage. Hein. Je vais avancer encore un petit peu. Alors, ça, c'est un de ses tout premiers tableaux. Quand il peint les jeunes filles spartiates luttant avec les garçons, ici, hein. Donc, là, c'est l'étude préparatoire. Et puis, voilà. Voilà le provoquant, quoi, luttant. Moi, j'ai dit luttant, c'est la même chose. Voilà. Donc là, c'est l'huile sur toile. Alors là, on sentirait davantage l'influence de Delacroix. Mais Ingres aussi, hein. Chez Ingres, David, bon, c'est des sujets qu'ils ont traités. Mais ici, il y a un côté qui me fait plus penser à Delacroix dans les gestes, dans la façon dont il a construit son tableau. Je pense au grand tableau de Delacroix. Je vais vous laisser un petit peu sur ce tableau-là pour que vous puissiez justement le regarder. Alors, toujours dans les choses importantes, ils vont aller, Achille et donc Edgar Degas vont se rendre à la Nouvelle-Orléans, hein, parce qu'ils vont quand même aller rencontrer la famille. Ils n'y sont encore jamais allés, notamment De Gaulle, il n'y est jamais allé. Et il va retourner également en Italie. Donc là, je vous passe tous les détails. Hein, je ne vais pas rentrer dans trop de choses qui soient trop longues. Alors, je vais vous lire quelque chose que je trouve intéressant. En 1874, c'est Goncourt qui écrit dans son journal ceci. « Hier, j'ai passé ma journée dans l'atelier d'un peintre bizarre, du nom de Degas. Après beaucoup de tentatives, d'essais, de pointes poussées dans tous les sens, il s'est énamouré du moderne. Et dans le moderne, il a jeté son dévolu sur les blanchisseuses et les danseuses. Au fond, le choix n'est pas si mauvais. C'est du blanc et du rose, vous voyez, du blanc. De la chair de femme dans du linon et de la gaze, le plus charmant prétexte aux colorations blondes et tendres. Il nous met sous les yeux, dans leurs poses et leurs raccourcis de grâce, des blanchisseuses, parlant leur langue et nous expliquant techniquement le coup de fer appuyé, le coup de fer circulaire, le fer à repasser, hein, bien sûr. Défilent ensuite les danseuses, c'est le foyer de la danse, avec sur le jour d'une fenêtre la silhouette fantastique de jambes de danseuses descendant un petit escalier, avec l'éclatante tache de rouge d'un tartan au milieu de tous ces blancs nuages ballonnants. Vous voyez, le blanc. C'est pour ça que je vous lis ce passage-là. Avec le repoussoir canaille d'un maître de ballet ridicule. Vous savez, il y a très souvent le maître de ballet. La danse, on verra plus ça la prochaine fois, mais je vous lisais quand même ce passage. Le peintre vous exhibe ses tableaux, commentant de temps en temps son explication par la mimique d'un développement chorégraphique, par l'imitation, selon l'expression des danseuses, d'une de leurs arabesques. Et c'est vraiment très amusant de le voir sur le haut de ses pointes, les bras arrondis. Vous imaginez Degas en train de jouer les petits rats de l'opéra. Mêlé à l'esthétique du maître de danse, l'esthétique du peintre, parlant du boueux tendre de Velázquez, du silhouetteux de Mantegna, peintre italien, Mantegna. Un original garçon que ce Degas, un maladif, un névrosé, un ophtalmique, à ce point qu'il craint de perdre la vue, mais par cela même un être éminemment sensitif et recevant le contre-coup du caractère des choses. C'est jusqu'à présent l'homme que j'ai vu le mieux attrapé dans la copie de la vie moderne, l'âme de cette vie. Donc vous voyez toute la modernité. Maintenant, réalisera-t-il jamais quelque chose de complet? Vous voyez, il se pose la même question que se posait sa famille. J'en doute. C'est un esprit trop inquiet. Puis, conçoit-on que dans ces reproductions si délicatement senties d'être et de nature, au lieu de mettre à cela le rigoureux décor du foyer de la danse de l'opéra, il fasse dessiner par un percepteur des architectures de Panini? Ça, c'est une question qu'il pose. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, Degas, ce personnage, quand je disais, je ne sais plus comment j'ai tourné ça dans mes propos, qu'il était finalement, je crois que je vous ai mis qu'il était mystérieux. Oui, je vous mettais que le point essentiel des trois artistes que je présenterai cette année pourrait s'appeler Mystère. Hein. Mais c'est vrai que Degas, ben, il va rester quand même relativement mystérieux pour beaucoup, hein, et notamment pour ses contemporains. Alors, bon, ben, il se rendra encore de nombreuses fois en Italie, etc. On va pas trop épiloguer. Et il va exposer à la galerie Durand-Ruel. Donc, ça, c'est important parce que cette famille de marchands qui existe encore aujourd'hui, eh bien, ont toujours su mettre en avant les précurseurs, les novateurs, les avant-gardistes. Hein. Donc, c'est important de savoir que on retrouvera des œuvres de Manet, de Degas, pardon, dans cette. Il y en a aussi de Manet dans cette galerie. Et je vais avancer encore parce que on va pas s'éterniser non plus. Donc il y a en 1878 un tableau très très important sur lequel je m'arrêterai, que j'avais cité dans mon petit propos en préambule, c'est Portrait dans un bureau, Nouvelle-Orléans. Mais donc, j'aurai un passage sur les portraits. Donc ça, j'aurai l'occasion de vraiment m'arrêter sur ce tableau qui est extrêmement important, lui aussi, dans la modernité. Et qui sera acquis, donc, par le Musée des Beaux-Arts de Pau. On a la chance hein, que cette œuvre-là, elle soit restée en France. Voilà. Alors, Ensuite, Degas va participer à différentes expositions, avec ou sans les impressionnistes. Il aura un différend avec Caillebotte dans les années 81. Caillebotte, vous savez qu'il a beaucoup œuvré pour aider ses amis impressionnistes à se faire connaître. Hein. Et en avril 81, dans la 6e exposition de peinture, il y a des œuvres, il y a des portraits de Degas qui sont mentionnés, et de la sculpture notamment, la fameuse petite danseuse de 14 ans. Hein, cette petite danseuse dont je vous parlerai aujourd'hui puisque je vais vous la montrer, qui est, je vous le rappelle, toujours dans une collection privée actuellement. Si certains d'entre vous, là on a eu l'occasion de la voir très... si vous êtes allé à l'exposition qui avait lieu au musée Marmottan, hein, puisque c'était justement sur les impressionnistes chez les artistes privés. Exposition qui avait peu d'œuvres, mais finalement qui était intéressante parce que c'était des œuvres, à part la petite danseuse que tout le monde connaît, mais on ne l'avait pas forcément vue, hein, l'original j'entends, hein, parce qu'il y a eu pas mal de copies mais faites par l'artiste, mais l'original est dans une collection privée. Alors ensuite, on le retrouve toujours à travailler. Bon, après, c'est plus, je ne vais pas insister, je ne vais pas vous citer là dans la biographie tous les tableaux qu'il a fait, puisque nous allons les voir, hein, les tableaux. Donc, je vais aller vite maintenant dans sa biographie. C'était surtout le début qui était intéressant pour nous. Il va acheter en 94, j'avais noté, ça c'est important, une œuvre de Gauguin. Donc vous voyez, il cible aussi tout de même ses peintres. Hein. Ce que je peux vous dire aussi au niveau de sa biographie, c'est quelqu'un qui va avoir des liens notamment avec Suzanne Valadon. Hein. Mais de source quasi sûre, c'est peut-être le seul peintre qui n'ait pas eu des liens trop proches avec Suzanne Valadon, puisqu'elle, vous savez que... elle vendait ses charmes comme ses œuvres, on va dire. Mais après, elle était libre, hein, donc nous respectons. Mais il est vrai que Degas, lui, très vite, avait reconnu, elle avait le droit d'aller dans son atelier, parce que je vous disais, peu de peintres y allaient, et il l'avait surnommée la terrible Maria. Hein, elle s'appelait Marie Clémentine, au départ, Suzanne Valadon. Et il l'appelait la terrible Maria, et c'est vraiment lui qui lui a donné l'impulsion pour travailler, pour devenir qui elle est devenue. Hein, voilà. Donc, et il disait que vraiment, il avait senti en elle une artiste née. Beaucoup de contacts avec Julie Manet, hein, qui est donc la fille du frère de Manet, le peintre. Hein. Et il va la représenter plusieurs fois. D'ailleurs, elle sera très présente quand il va tomber malade. Hein, ça va être le problème de la fin de sa vie. Hein, à partir de 1897, il est souvent alité. Hein, mais il va continuer néanmoins de travailler, hein, étant de plus en plus sensible au niveau santé, si vous voulez. Donc beaucoup de contact avec la famille de Berthe Morisot et notamment avec Manet. Également des contacts avec Mary Cassatt. D'ailleurs, il va la représenter dans des dessins, Mary Cassatt au Louvre. Quand il va représenter les modistes, souvent ce sera Mary Cassatt qui essaiera les chapeaux. Donc, vous voyez, elle aussi est... Et finalement, il mourra en 1917, à l'âge de 83 ans, des suites d'une congestion cérébrale. Et il sera inhumé dans le caveau familial à Montmartre. Alors, pas dans le tout petit cimetière de Montmartre, hein, mais dans le grand cimetière de Montmartre. Donc, s'il y en a qui veulent aller sur sa tombe, vous pouvez. Et je vous lirai simplement en guise d'oraison funèbre. Degas avait dit à Forain, donc un des peintres de Montmartre, qu'il ne voulait pas d'oraison funèbre. Ce sont là, en substance, ses propos. S'il en faut une, donc une oraison funèbre, ce sera vous, Forain, qui la prononcerez. Vous direz, il aimait beaucoup le dessin, moi aussi, puis vous rentrerez chez vous. Mais je trouve que c'est le plus bel hommage que de la redire aujourd'hui, cette oraison funèbre, puisque je vous ai dit quand j'ai commencé, que j'allais axer aujourd'hui essentiellement sur le dessin. Puisque, en fait, c'est vraiment là où il a excellé dans tout. Mais les dessins de Degas mériteraient vraiment, à eux tout seuls, une exposition. Mais une exposition au Grand Palais, vous voyez, qui serait vraiment que les dessins. Parce qu'il y a vraiment matière à travailler. Donc, je vais continuer là jusqu'à le propos d'aujourd'hui. Je vais continuer de faire défiler les œuvres, là. Donc, encore les jeunes spartiates. Donc, toujours, voyez, cette façon de travailler. Ici, scène de guerre. Donc, des scènes d'histoire, il n'y en a pas énormément. Ce qu'il y a surtout le moins chez Degas, ce sont des paysages. Hein. Il a très, très peu travaillé le paysage. Alors là, encore d'autres dessins. Ce ne sont pas encore ceux sur lesquels je vais m'attarder. Mais voyez, de plus en plus, un travail... là, on retrouve, vous voyez, l'inspiration de... Là, il continue de copier. Hein. C'est ça qu'on vous a mis en vignette le tableau d'Ingres. C'est Roger défendant Angélique, hein, c'est ça. Voilà, ça a remis... Voyez, les dessins correspondent. Voyez le personnage, là. Hein, vous le retrouvez, le personnage qui est là. On a essayé. Et voyez la qualité des dessins de Degas. Là, on sent vraiment combien il s'intéresse au dessin. Là aussi, voyez, on vous met le personnage, on vous a mis le personnage qui est là. Voilà, hein, comment il le travaille. Là, le personnage qui correspond à ce personnage-là. Les amis, là, pour que vous puissiez faire le lien. Même chose, hein, après, je vous fais les dessins qui sont... Mais c'était vraiment un acharné du travail. Voilà, et là, donc, voilà, Madame Paul Valpinson, hein, donc je vous ai dit qu'il s'était lié d'amitié avec Paul Valpinson et donc avec sa famille. Alors, c'est assez, quand je vous parlais de cadrage, avec ce tableau-là, c'est assez intéressant, parce que le tableau pourrait très bien s'appeler, donc c'est, le titre c'est « Une femme assise auprès d'un vase de fleurs », mais le tableau aurait très bien pu s'appeler « Vase de fleurs ». Parce que là, volontairement, il a cadré la jeune femme de façon à ce qu'elle elle sort quasiment du tableau. Et cette façon de faire sortir les personnages du tableau, eh bien justement, ça va être une des caractéristiques de Degas, hein, et qui vont œuvrer justement pour la modernité. Comme ça, le fait de le... Parce qu'elle est vraiment proche de nous. Elle devient réelle. Je pense que vous le sentez, ça. Hein, avec cette proximité, justement. Et puis, elle a une attitude réelle. Donc, il y a un côté très réaliste, là, dans cette représentation. Le vase de fleurs, lui... Il est un peu plus classique, hein. Il pourrait être du 18e, du 19e, voilà, c'est un vase de fleurs. Mais là, justement, c'est une nature morte vivante, ce vase de fleurs. Hein. Parce qu'on les sent, et d'ailleurs, en harmonie, moi j'aime bien le petit clin d'œil qu'il fait ici avec la coiffe, et puis finalement, c'est vraiment le lien. Hein. C'est à peu près le seul lien. Et cette façon aussi de rentrer dans le tableau, bah, tout à fait comme le fera plus tard Cézanne, c'est-à-dire avec ici le... Vous savez, Cézanne, pour ses natures mortes, il a toujours besoin comme ça d'un meuble, ce qui peut être une table, qui peut être une commode, qui peut être... voilà. Et bien là, c'est la même chose, parce que ça permet donc, sans cet appui, bah, la jeune femme n'aurait pas cette attitude. Hein, et en fait, c'est un prétexte, quoi, vous voyez. Et puis, donc, avec à l'arrière-plan, peut-être des tableaux. Hein. Peut-être même des tableaux de Degas. Vous voyez la différence aussi, là, parce qu'il y a d'autres tableaux qui vont nous faire penser parfois au Nabi. Là, on n'a pas encore ce... On a le papier peint qu'on va retrouver chez les Nabis, mais c'est quand même, il est quand même à l'arrière-plan, ce qui est vraiment le plus important ici, pour cadrer, finalement, pour donner sens... À ce personnage qui sort du cadre, eh bien, c'est le bouquet. Hein. Et puis là, regardez le travail de transparence, là, qui est intéressant aussi. Hein. Alors, je passe l'image suivante. Alors, voilà. Là, je vous parlais des Nabis volontairement parce que je savais ce qui arrivait après. Voilà ici une scène d'intérieur. Hein. qui est malheureusement pas en France, hein, qui est au musée de, aux États-Unis, au musée de Philadelphie. Et moi, bien sûr, je vais revenir, mais je vais tout de suite vous passer la suite, parce que moi, quand j'ai vu cette scène-là, bah, j'ai tout de suite pensé à lui. Et lui, c'est... Il y en a qui le reconnaissent ? Non. Valoton, très bien. Ah, il y a des experts dans la salle. Voilà. Donc, c'est vrai, en plus, celui-ci, on l'a vu dans l'exposition qui a eu lieu sur Valoton. Il y était, la chambre de la jeune malade, là. Et puis, ici, eh bien, c'est une... là, c'est une scène intimiste, hein. Mais c'est vrai qu'on est tout à fait dans cette ambiance avec le tableau. Alors, je vais revenir sur le tableau de Degas, voilà, puis je vais poser ça. Comme ça évitera que je fasse avancer sans le vouloir. Il y a un côté, il y a ce couple, hein, qui n'est pas, on ne sait pas trop ce qui se passe. Va-t-il sortir? Va-t-il rester? Hein, on est un peu comme chez Valoton dans cette histoire un peu romancée toujours, hein, où c'est derrière une porte. Alors là, il est bien présent. Et puis, mais avec cette ombre, vous voyez cette ombre immense qui est derrière lui. La jeune femme, qui elle, va qu'à autre chose. Et puis la présence qu'on va retrouver après dans toutes les œuvres Nabi, c'était pas ça que je voulais faire. Voilà. De cette lampe, hein. Cette lampe que l'on retrouve. Et puis le lit, c'est exactement le même. Il n'a pas tout à fait la même forme, mais ce style de lit avec les barreaux que l'on retrouve après chez Valoton aussi. Alors, la tapisserie, hein. Et puis, c'est vraiment une chambre. Alors, vous voyez là ce qu'elle a posé au niveau des vêtements qui est négligemment jeté ici, hein, sur le sol. Et puis, d'autres vêtements qui sont ici, hein. Donc, là, il nous fait vraiment rentrer, mais avec, je trouve, il y a toujours chez Degas, et c'est peut-être pour ça que moi, je l'aime particulièrement, beaucoup de retenue. On entre, il y a beaucoup plus de retenue que chez Toulouse-Lautrec. C'est beaucoup moins cru chez Degas. Et même quand il va avoir un tableau suggestif comme celui-ci, il y a une retenue qui vraiment lui est propre, hein, et qui correspond finalement à ce personnage qui était quand même, qui était ce monsieur. Finalement, il avait des vrais amis avec qui il ne se fâchera jamais, mais qui était quand même un solitaire par rapport au groupe. Malgré tout. Alors, donc ça, on l'a vu. Ici, je vous montre Mademoiselle Fiocre dans le ballet La Source. Alors, une mise en scène qui, bien sûr, moi, m'a fait penser à un tableau de Gauguin, hein, que l'on vous a mis en vignette là-haut. Hein. Mais c'est vrai que la façon de montrer... Les chevaux sont dans la même attitude. Et c'est pas par hasard, c'est tout à l'heure, justement dans la biographie, je vous ai dit qu'à un moment, il achètera un tableau de Gauguin. Hein. Donc, moi, j'ai trouvé intéressant ce rapprochement. Et puis même, regardez les visages des femmes. Elles sont assez proches des femmes de Gauguin également, hein. Presque de tahitiennes, j'ai envie de dire, hein. Notamment celle-ci. Hein. Celle-ci. C'est intéressant. Et de voir... Alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce tableau, c'est la façon dont il nous propose en premier plan le reflet. Parce que là, il y a un travail pictural qui est très très riche dans la modernité, justement. Hein? Là, c'est vraiment la couleur, la peinture pour elle-même. À la limite, bien sûr, le sujet au-dessus est très intéressant. Mais rentrer de cette façon-là dans le tableau, parce qu'on pouvait y rentrer d'une autre façon. Et il suffisait qu'ils nous mettent les personnages vraiment, qu'ils les fassent sortir justement cette fois, comme il a fait sortir tout à l'heure Madame Paul Valpinson, eh bien on n'avait plus ce même effet. Et là, je vous renvoie aussi au tout petit tableau de Paul Serruzier, Le Talisman, où on a le reflet justement des arbres du chemin de Bois d'Amour, là, ce tout petit tableau donc, qui a été le départ des Nabis. Eh bien, on est dans le même propos, hein. Et c'était bien Gauguin qui avait dit justement à... Mais ça se passe beaucoup plus tard, hein. C'est 1887. Hein. Et là, nous sommes simplement en 1867, il y a 20 ans d'avance, là. C'est ça qui est intéressant. Donc, Gauguin a regardé Degas. Et non le contraire. Alors ici, ça, je pense que vous le connaissez, celui-ci. Hein, il est souvent représenté dans les livres. Donc, c'est Mademoiselle Hortense Valpinson, donc cette famille de qui il est très proche et où il se réfugie justement. C'est pendant la, quand il est démobilisé, hein, suite à la guerre de 70, qu'il va se réfugier donc chez les Malpinson et qu'il va faire ce portrait tout à l'heure dans la biographie, je vous en ai parlé. Hein. Donc là, on arrive bien, ce portrait, il nous fait bien penser, j'ai envie de dire, au portrait impressionniste. Hein, c'est-à-dire qu'elle a bon, ce chapeau que portent les femmes, qui n'est pas tout à c'est pas le canotier des hommes, mais qui est relativement proche quand même. Et puis cette attitude, elle est prise sur le vif, vous voyez comment la main est levée. Ce regard qui est insistant et il ne nous dérange pas, ce regard, hein, mais il ne nous regarde pas directement. Moi qui suis plus ici, à la limite, il est plus dans ce sens, qui regarde au loin. Et puis dans ce décor, je ne veux pas dire, mais presque japonisant en ce qui concerne le meuble. Hein, ici, pas pour le papier peint, mais pour le meuble. Alors, pendant que j'y pense, parce que je ne voudrais pas omettre de vous le dire, je ne vous revois pas avant le 12 novembre, je crois. Si vous le pouvez, allez voir l'exposition sur... alors, je sais que c'est... Vous verrez pas... Il faut bien choisir la période, parce que je sais qu'il va y avoir une période où ils vont enlever certaines œuvres au Kusai. Parce que comme c'est très fragile, ils ne vont pas être exposés en permanence. Donc, il faut vous renseigner. Alors, vous qui avez Internet, tout ça, regardez bien. Mais allez voir cette belle exposition, cet hommage qu'on lui rend. Parce que je pense que ce n'est pas très, très souvent que l'on montre comme ça des estampes. Donc, il faut vraiment en profiter. C'est au Grand Palais. C'est au Grand Palais, pardon. Et puis, alors, si vous êtes à Paris, allez aussi, parce que là, c'est dans la modernité. Alors, ça n'a rien à voir. Annie, elle n'est pas en disant « c'est moche, ça ne m'intéresse pas ». Allez-y vraiment, parce que c'est... Hier, j'ai écouté une émission avec un commissaire-priseur collectionneur qui maintenant est à la retraite, mais qui a écrit le dictionnaire amoureux. Il était avec Frédéric Tadéhi, le dictionnaire amoureux de l'art moderne et contemporain. Et il disait que finalement, le dernier et peut-être et seul artiste vraiment contemporain, c'était Marcel Duchamp. Et il y a l'exposition Duchamp à Beaubourg. Il y en a déjà eu, hein, mais là, il y en a une nouvelle. Je ne l'ai pas encore vue, hein, j'y vais prochainement. Mais allez la voir, parce que effectivement, après tout ce qui suit aujourd'hui, c'est du Duchamp, mais mal compris. Il a dit, lui, il était encore vraiment un artiste. Et il a beaucoup critiqué, il n'a pas tout critiqué l'art contemporain, mais il a dit au contraire, je défends toujours, mais actuellement, il s'était d'accord avec Tadéhi, il n'y a plus d'avant-garde. Si l'avant-garde, c'est de mettre, bon, il a expliqué, il a donné différentes choses, mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas vrai, je dirais peut-être pas plus, moi j'aime pas être à ce point fermé les. Vous voyez, j'aime pas verrouiller, si vous voulez, hein, moi je laisse toujours une ouverture, mais c'est vrai qu'on peut quand même se questionner. On peut se questionner aujourd'hui sur le devenir de... Mais moi, je ne m'inquiète pas. Mais disons qu'il n'y a pas eu... Il ne s'est pas passé dans les années qui ont suivi 2000 ce qui s'était passé dans les années qui avaient suivi 1900. Malheureusement, nous aurions vécu quelque chose d'extraordinaire. On n'a pas vécu ça. C'est vrai que ça semble... Puis maintenant, même si moi, je n'aime pas verrouiller, beaucoup de choses le sont, verrouillées. Après, libre à vous de... Vous interprétez comme vous le voulez. Hein? Voilà. Moi, je donne simplement 10 pistes de réflexion, c'est tout. Donc, voilà. Alors, bon, c'était pour vous parler en même temps. J'aime bien, parce que c'est important que vous alliez voir ces expositions. C'est aussi mon rôle de vous en parler. Donc, voilà, la première exposition de Degas. Hein, on vous a retrouvé les pages. Ça, c'est pas moi. Hein, c'est merci, Monsieur Collin. Les pages du catalogue. Et puis, donc ça, c'est tout à l'heure quand je faisais allusion à ce maître, Degas mimait le maître de ballet comme ça, là, qui est sur son bâton, là, le bâton qui lui sert à disputer les danseuses, finalement. Hein. Et puis, alors, justement, à côté de ça, mais ça correspond tout à fait à ce que je vous lisais tout à l'heure dans le journal de Goncourt, hein, quand il disait, bah, en ce moment, il y a du blanc partout, il peint des lavandières, des repasseuses, des... Voilà. Et puis, donc, les petites mains, si vous voulez, de la vie quotidienne. Et puis, les danseuses avec leur tutu. Mais toujours ce côté évanescent de l'étoffe. Hein, on le trouve ici, ce jeu sur les... Alors, voyez, cette façon de montrer les transparences, ici, c'est plus du tout comme tout à l'heure la bouteille que vous aviez à côté du bouquet dans le portrait de Mademoiselle Malpinson. Hein, c'est plus du tout la même chose. Là, au contraire, il va donner une autre forme de vie à ces étoffes. Hein. Alors, pour les danseuses, quand je vous disais, il y a toujours de la retenue, des transparences qui ne vont pas au-delà de ce qu'il faut montrer. Hein, on est dans la retenue. Le visage, les anciens fers à repasser, hein, pendant un moment, je pensais vous en amener, mais ils sont tellement lourds, donc j'ai renoncé. Mais vous connaissez ça, de toute façon, on en voit encore quelques fois dans les brocantes, vous en avez peut-être même chez vous. Moi, je me souviens de voir ma maman qui mettait le fer près de la joue pour voir s'il était là, pour savoir après si elle n'allait pas brûler selon ce qu'elle repassait. Hein. On voit tout à fait le geste de la repasseuse, parce que apparemment ce qu'elle repasse, il va pas falloir le brûler, puis c'est certainement quelque chose de délicat. Hein. Donc là, moi j'aime beaucoup ce regard qui ne fait pas le détail du visage, mais ce qu'on en voit est suffisamment expressif justement. C'est beaucoup mieux que s'il avait fait vraiment le détail des sourcils, du nez, de la petite bouche, le petit menton, nanana, les pommettes. Bon. Non, c'est pas le but. Ici, c'est de donner quelque chose qui est plus puissant parce que elle est dans un lieu clos qui doit être vraisemblablement les chambres de bonne, c'était sous les toits. Hein, c'était relativement petit. Et puis elle en peut plus, quoi. Hein, parce que elle fait, vous voyez, tout ce qui est là, c'est le linge qui est en attente, hein. Qui sèche, qu'elle va, voilà. Avant, certainement, qu'elle sait peut-être même elle aussi qu'il a lavé ce linge, il n'y avait pas les machines et tout ça. Donc, je trouve qu'il crée vraiment une ambiance confinée, mais qui est forte. Et voilà. Et donc, le visage, il nous suffit, comme ça. Alors, je continue. Voilà, ici, on vous montre un éventail. Alors, ça, c'est pareil, c'était intéressant de vous le montrer parce que Degas va être un des premiers à faire comme ça les éventails qui vont beaucoup être pris par les nabis. Les nabis, eux, vont énormément faire des éventails. Hein. Donc ici, voilà, bon, je ne veux pas vous le commenter, hein. C'est plus pour vous montrer. En voilà un autre hein, avec les jeunes danseuses, comme on va le retrouver après dans les... Et ce qui est intéressant toujours, vous voyez, l'éventail pour lui, c'est tout à fait idéal puisqu'il travaille sur le cadrage. Il va être novateur dans la photo, il va faire beaucoup de photos. Et là, justement, la forme de l'éventail lui permet un cadrage intéressant. Hein, parce qu'il faut bien que l'éventail il s'arrête. Donc, voilà. Et même ici, de montrer les jeunes femmes comme ça, tout à fait au bord de l'éventail. Hein. Alors ici, le bal, là, on se retrouve aussi bien, là, je vous renvoie au bal au Moulin de la Galette, je vous renvoie au tableau de Toulouse-Lautrec, je vous renvoie, là, c'est vraiment l'esprit impressionniste, ici. Hein, mais voyez, il ne cherche pas à montrer dans le Jardin des Tuileries, par exemple, c'est Manet, merci, j'étais en train de chercher. Non, parce qu'il y en a un autre que je pensais à deux peintres en même temps, oui, c'est Manet. Le Jardin du Tuileries de Manet, vous avez des visages qui sont bien, on reconnaît les personnages, ils sont bien distingués les uns des autres. Alors que là, c'est pas du tout le propos c'est plus de montrer, à part ceux que l'on pourrait reconnaître plus aisément, ce serait éventuellement un petit peu ces gens-là, mais vous voyez, même ceux-là qui sont quand même plutôt au premier plan, c'est pas le but de Degas hein, de les différencier. Hein. C'est plus de montrer, là encore, une ambiance qui est totalement opposée à celle que je viens de vous montrer. Hein. Vous avez la petite blanchisseuse d'un côté, la repasseuse, et puis là, vous avez, vous avez le bal qui apparemment là, n'est pas vraiment un bal populaire, celui-ci. Hein. D'après l'armée est là, les très belles toilettes, tout ça, bon, voilà. On passe dans un autre monde. Voilà. Alors ici, donc, c'est intéressant de voir tous ces hommes qui sont représentés ici dans ce tableau. Hein. Alors là, il y a un tableau de, ben, je crois, on l'a pas retrouvé, hein, le tableau de Renoir où il montre, mais je vous donne les références comme ça, vous pourrez le rechercher éventuellement. C'est un tableau de Renoir. Il montre des étudiants en train de discuter sous un porche avec des étudiantes et les étudiants sont tous en chapeau haute forme comme ici. Hein. Et moi, j'aime bien ce côté... c'est la bourse, hein, finalement. Là, ils sont tous ces messieurs qui sont là. On est en train d'échanger peut-être des tuyaux, quoi. Moi, je sais pas trop. Hein, je connais pas trop ce monde-là. Mais j'aime beaucoup les attitudes notamment, pardon, notamment des deux personnages ici. Et puis, voyez toujours le cadrage pour celui-ci aussi. Là, il y a juste un tout petit bout du chapeau qui dépasse ici. Hein. Et la différence, là, il est dans le mouvement. Donc, à partir du moment où il est dans le mouvement, la main, elle est floue. C'est exactement comme... Là, il fait comme une photo. Quelqu'un va bouger au moment de la photo, il va être flou. Bien, là, c'est la même chose. Alors que les deux, là, qui sont statiques, il lui met la main sur l'épaule, mais ils sont statiques. Bon, là, la main, elle est déjà beaucoup plus nette. Hein. Et puis, cette main-là, elle est encore plus. Voilà. Alors, ici, très intéressant, cette loge à l'Opéra en 1880, parce que là, quand je vous disais, il nous fait, grâce au cadrage, il fait sortir les personnages de la toile, c'est tout à fait ça. Là, vous n'êtes plus dans un tableau, vous êtes dans la loge. Là, la loge, elle sort totalement. Hein, et voyez quand même, j'ai voulu mettre aussi en référence la loge de Toulouse-Lautrec, mais voyez, l'effet n'est pas du tout le même. Toulouse-Lautrec n'a pas le même cadrage. Et là, on est beaucoup plus proche. Alors, je pensais à... Ça y est, j'avais son nom il y a 2 secondes, je viens de le perdre. Le fauve... comment il s'appelle? Qui a représenté beaucoup comme ça des gens, des scènes de théâtre. Ça me reviendra. Si ça me revient, je vous le dirai, c'est pas grave. On est donc déjà très avancé. Nous ne sommes qu'en 1880. Et moi, je vous fais allusion à des tableaux qui datent des années 1905-1907. Vous voyez ? Donc, c'est très, très intéressant. Ce visage, tout d'un coup, on entre. En plus, c'est passionnant parce que on est sur 2 étages. Il nous fait entrer ici. Donc, c'est uniquement une œuvre de peinture hein, qui lui permet de signer, là. Hein, on a cette œuvre de peinture. Et puis, donc, on grimpe. Pour finalement, alors on a d'abord affaire à ces sculptures dans la peinture, mais qui sont des sculptures au départ. Et puis tiens, il y a un visage humain. Et ce visage, il retient toute notre attention une fois qu'on l'atteint, parce qu'elle n'est pas avec nous, elle est à son spectacle, totalement. Donc là vraiment pour moi, c'est vraiment une œuvre puissante, hein, ce morceau-là. Voilà, alors un des rares, je crois qu'il y a deux ou trois paysages, il en a fait très très peu. Il a beaucoup beaucoup travaillé le pastel, hein, et notamment là aussi il va être très moderne pour le pastel. Donc ici un paysage qui date de 92, hein, qui montre un pastel. Alors, mais là quand on regarde ce type de paysage, quand on regarde ce pastel, on se dit, Degas, ce qui l'intéresse c'est la peinture, c'est la couleur, c'est comment il va la... J'ai presque envie de dire la triturer, la manier. Vous voyez comment il va la faire se harmoniser, comment par la couleur il va créer des formes. C'est pas je dessine une forme et je la peins ou je la travaille au pastel. Ce n'est pas ça. C'est voilà, j'ai une matière qui s'appelle le pastel. Je vais créer quelque chose. Comme si au départ il savait pas. Vous savez comme un enfant à qui on va donner de la pâte à modeler. On va lui dire, tu fais ce que tu veux. Alors au départ, il va nous faire ce qu'on appelait les pains longs, où il va faire des petites boules, il va faire un petit bonhomme avec une tête, et puis le corps, ça sera encore une autre boule, et puis voilà. Après, ça va se... Bon, mais là, c'est exactement pareil, on a l'impression, il donne vie grâce uniquement à la matière, au médium pastel. C'est ça qui l'intéresse, avant tout, le médium. Le médium photo, le médium sculpture, le médium... peinture, le médium dessin, le médium pastel. Alors ici, avant le ballet, là on pourrait dire la couturière, hein, là c'est la répétition en fait, hein, ici. Donc là c'est pareil, hein, voyez le même travail, parce que là ces danseuses, ils ne les travaillent pas non plus, on ne va pas montrer une jolie petite danseuse, on voit bien le visage, bien le corps, bien non. Là c'est tout un ensemble. C'est toujours ce travail très avec les ombres, ce besoin qu'il a de... Il est vraiment dans la recherche. Son atelier, puisque lui, il préférait travailler en atelier, son atelier était avant tout un laboratoire de recherche. Ça a vraiment été... Et c'est pour ça qu'il mettait si longtemps, et puis que sa famille et ses amis se désolaient, Parce que quand on est dans la recherche, eh bien, on n'est pas, on n'aboutit pas toujours. Hein, quand on recherche un laboratoire, recherche un médicament ou recherche un vaccin, il ne va pas claquer des doigts, puis il faut des années et des années. Bon, ben là, c'est la même chose pour lui. C'était vraiment son... Il était tellement passionné, puis il n'aimait pas. Quand il était dans quelque chose, il ne faisait pas autre chose. Donc, il était dans sa peinture, dans sa recherche, et voilà comment il produisait. Alors, des choses qui peuvent être... Bah, qui nous montrent la contemporanéité, hein, comment ça se passait. Voilà, un beau billard, ici. Avec... bon, bah, c'est chez lui, hein. Donc là, quoi, dans une de... chez lui ou dans chez ses amis, Valpinson éventuellement. Donc, vous avez des œuvres partout sur les murs, hein, bien sûr. Ce sont des collectionneurs. Je pense que c'est chez Valpinson, là, parce qu'avec tout, comme il était collectionneur, donc avec toutes les œuvres, certaines de Degas, d'ailleurs. Hein. Il ne collectionnait pas que Degas. Et ici, ce tableau que j'aime beaucoup, donc chez la modiste, parce que moi, j'aime beaucoup le travail de Degas, dans le sens où là, il va être proche de Manet, c'est-à-dire qu'il va être, comme Manet, témoin de son temps. Et là, avant de représenter la boutique d'une modiste, avec cette jeune femme, alors, pour certains, c'est peut-être Mère Wicassat, hein, alors, dans certains tableaux, on est sûr que c'est elle. Là, on ne le sait pas, donc point d'interrogation. Mais en tout cas, on est vraiment dans l'ambiance de cette boutique, là, avec les. Au premier. Alors, toujours, vous voyez, et il nous met toujours au premier plan des choses qui, pour nous, peuvent paraître insignifiantes. C'est-à-dire que la jeune femme, qui est quand même le sujet, puisqu'elle essaye le chapeau, elle est devant son miroir, elle est plutôt vers la sortie. Hein, alors qu'au tout premier plan, eh bien, on va avoir le carton à chapeau. Hein, vous voyez ? Et puis des chapeaux qui sont posés ici, et puis la chaise ici, et puis bon, ben là, alors là, on va arriver à la, vraisemblablement, la modiste ici, hein. Puis d'autres personnes qui sont dans la boutique. Mais voyez, il y a une façon d'entrer dans les tableaux qui sont très, très particulières à Degas. Il ne mettra pas forcément l'accent sur ce que, a priori, nous aurions mis l'accent, mais c'est d'autant plus intéressant. Parce que ça nous permet d'entrer dans le tableau d'une autre façon aussi. Puis lui, ça lui permet de cadrer différemment. Parce que là, ce qui est très intéressant aussi, c'est tous les passages. Parce que vous avez le passage ici. Hein, vous avez le passage ici. Là, vous avez la porte de sortie. Vous avez donc, avec la vitrine, vous avez l'extérieur. Donc, il y a tout un jeu. Puis un jeu de lumière aussi qui est tout à fait intéressant. Voilà, un autre paysage, vous voyez, c'est pas... Mais c'est vraiment pas son... Il ne travaillera pas les paysages, parce que justement, il n'aime pas aller en extérieur. Hein. Il va y avoir une lutte, il va être déchaîné contre les tableaux en extérieur. On ne va pas s'attarder, parce que c'est pas... Alors, voilà, je vais rentrer donc dans ce qui est très, très important pour lui, c'est-à-dire la photographie. Alors, je ne vais pas vous les commenter, les photographies, hein. Je vais simplement vous les montrer, hein. Donc là, c'est autoportrait. Il est donc ici. Il est ici et avec donc Christine et Yvonne Lerolle. Alors, à propos de la photographie, j'avais noté... Alors, où est-ce que j'ai mis ? J'avais noté quelque chose sur la photographie. Il s'y est intéressé très vite parce que ce qui l'intéresse, lui, c'est l'instantanéité. Donc, bon, c'est pas grave si je retrouve pas, je l'avais noté tout à l'heure, pourtant. Je pensais l'avoir... Bon, c'est pas grave. Ce qui l'intéresse beaucoup, Degas, c'est l'instantanéité. Et bien sûr, l'instantanéité, eh bien, il va la trouver dans la photographie. Et contrairement, lui, il ne va pas du tout avoir peur de la photographie. Hein. Il va utiliser la photographie comme aujourd'hui certains utilisent l'informatique, si vous voulez. Ça va être pour lui un moyen, ça l'empêchera pas de sculpter, ça l'empêchera pas de peindre, mais ça, au contraire, ça l'aidera justement dans ses tableaux. Quand il va peindre la famille Bellini, là où il va justement, ses cousines d'Italie, où il va vouloir montrer justement un moment de leur vie pris sur le vif, donc dans l'instant, eh bien, il va se servir de ce qu'il aura pu travailler avec la photo. Donc, alors bien sûr, à l'époque de Degas, eh bien, on est loin de l'époque de Nicéphore Niépce où il fallait attendre plusieurs heures, hein, voire plusieurs jours. Bien sûr, là, on travaille au collodion, donc il y a eu tout ça, hein, ça a beaucoup progressé. Nous sommes en 1895, hein, donc tout a beaucoup progressé au niveau de la photo. Alors voilà, là c'est Louise Halévy qui est en train de lire quelque chose à Degas. Donc elle est ici, Degas est là. Voilà, ici autoportrait avec Zoé Closier qui est derrière. Voilà. Et c'est vraiment un médium qu'il a touché à tout de toute façon. Donc voilà, je vous disais, la famille Gobillard, donc c'est la famille de Julie Manet, hein, la famille de Julie Manet et puis la famille de Berthe Morisot, hein, si vous voulez, on est dans cette famille-là, avec Mallarmé, ils étaient très amis avec Mallarmé. Mallarmé était d'ailleurs le tuteur de Julie Manet, je crois. Donc ici, vous avez toute cette fratrie, hein, puisqu'ils se fréquentent beaucoup dans les dernières années de la vie de Manet. Alors ici, portrait d'Henri Lerolle avec ses deux filles qu'on avait vues tout à l'heure, hein, Yvonne et Christine, et le miroir. Hein. Donc le miroir qui est tout à fait intéressant parce qu'il nous permet... Donc vous voyez, il pense à tout. Hein. Il est en train de photographier et la présence du miroir est tout à fait capitale. Hein, ici. Pour la lampe, justement... tous les personnages sont repris grâce au miroir. Hein. Extrêmement, cette photo, elle est très très. Elle n'est pas datée, mais c'est toujours les mêmes années. Hein. C'est autour de 1895. Donc là, on sent vraiment l'artiste et le chercheur. D'accord, pas de souci. Alors ici, les nus, un nu en photo. Bon, je ne veux pas le commenter. Après le bain, et c'est très beau aussi comme photo, hein. Alors, à côté sépia, une danseuse qui ajuste son vêtement, hein. toujours les mêmes années, hein, pour les photos. Et donc, alors c'est pareil, les dessins, je vous ai dit, je ne vais pas vous les commenter, hein. Je veux surtout vous les montrer, hein. C'est pour ça que je suis dans les temps, je sais que ça passe. Donc ici, des drapés, alors c'est tout à fait au début, là c'est quand il copie, et vous voyez quand même la force de ses dessins. Là, c'est une étude d'après Roger, donc des livres angéliques, d'Ingres. Ce tableau, vous le connaissez, hein, il est aussi beaucoup reproduit, puis il est à Orsay. Non, il est à Londres, celui-là, pardon. Non, c'est La Source qui est à Orsay. Et c'est très proche. Voilà, là, je vous en montre d'autres. Non, mais je veux pas commenter des dessins. Hein. Je pense que là, il faut que vous les regardiez. Regardez là, la force, notamment dans ce buste d'homme. Hein, le trait, c'est vraiment sur le vif. Regardez là ce jockey amateur, bah, tout y est. On peut rien ajouter de plus. Hein. Il est très 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 observateur. Et il se rendait sur les champs de course. Bon, bah, toute la partie, ça je vous montrerai la prochaine fois. Là, la chanteuse de cabaret. Là encore. Hein. Et c'est très très moderne là. Celui-ci, on passe. Vous voyez, ici, bon, ben, on date forcément de par l'attitude et puis comment est vêtue la jeune femme. Vous arrivez là, ça pourrait être Edith Piaf, ça pourrait être, vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de très moderne. Hein. Là, les deux chanteuses de musical aussi, c'est très. Il a vraiment saisi l'attitude. Et vous voyez, ce que savait faire aussi très bien Toulouse-Lautrec, mais tout à fait dans un autre esprit. Là, vous voyez, il y a vraiment. Il n'y a pas de lien pour moi. Hein, ils sont vraiment très, très, très différents. Et c'est très, très fort. Hein. Là, regardez, il y a peu de choses. Mais combien elle est présente, combien on imagine ce qu'elle est en train de chanter quasiment. Le type de voix qu'elle peut avoir. Alors là, c'est très très beau, les deux études de Mary Cassatt au Louvre. Hein. C'est magnifique. C'est des dessins qui font œuvre d'art à part entière, seule. Mais il y en a des centaines et des milliers. Voilà. Une actrice, Hélène André. Encore Mary Cassatt au Louvre. C'est très, très, très beau. Encore là, une œuvre à part entière, totalement. Alors, qui est complètement cadrée. Rien n'est laissé au hasard. Regardez les ombres, regardez la lumière, regardez. Tout est comme dans la peinture. Ah oui, oui, il y a tout. Il y a la profondeur, il y a tout. Il y a tout. Très moderne, là. Parce qu'on a l'impression que ça pourrait être au stylo bille. Ah oui, 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 pourquoi pas. Oui, madame dit un tag, mais oui. Oui, c'est d'une modernité incroyable, parce que là, c'est de la calligraphie uniquement. Pas de la calligraphie, de la graphie. C'est vraiment c'est graphique avant tout. Voilà, des études pour le portrait d'Edouard Manet. Très, très beau aussi, là. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup celui-ci, là. Là, c'est magnifique. Là, on voit les différentes étapes. C'est superbe. Et le chapeau, là, qui est comme ça, là. Là encore, œuvre à part entière. Hein. Et pourtant, ce sont que des études. Ce ne sont que des études. Hein. Manet aux courses, regardez, comme avec quoi, rien. En plus, il n'est même pas de face. C'est superbe. Les Américains qui nous l'ont pris, ils ont bien compris. Hein. Alors là, voilà, des travails de danseuses. Hein. Très, très, très beau aussi. Très beau pastel. Juste le petit rehaut de rose pour les chaussons et les jambes, c'est juste suffisant pour donner encore plus de vie. Puis regardez, moi ce que j'aime beaucoup, c'est ses attitudes. Parce que là, on sait que derrière ce personnage-là, il se cache un véritable être humain. C'est pas la pose. C'est quelqu'un, en ce moment, elle pense peut-être à comment elle va, il y a peut-être quelque chose qu'elle n'a pas réussi, ou comment elle va faire, ou c'est peut-être difficile pour elle. C'est très fort. Hein. La jeune femme qui enlève ses bas. Après le bain. La très beau nu aussi, qui sont toujours... qui ne sont jamais vulgaires, jamais... Les portraits sont très forts. Regardez le portrait de cet homme. Et une fois de plus, regardez les mains. Regardez le détail de cette main. On dirait qu'elle est sculptée. D'une force incroyable. Et cette femme, tout le mystère qui a autour de ce visage. Autoportrait, très beau aussi. Là aussi, il y a une force, il est complètement perdu, lui. On ne sait pas à quoi il pense, mais c'est fort, justement. Et ce n'est pas par hasard s'il y a cette oreille qui est là plus que... Ça, c'est superbe. Magnifique dessin avec une force incroyable. Hortense Malpinson. Très beau. Alors ça, c'est les fameuses cousines qu'il a peint du côté de Bourg-en-Bresse, là. Dessiné, pardon. Du côté de Bourg-en-Bresse. Hein. Elles avaient une maison là-bas. Et là, donc, c'est ses carnets. Alors, il a laissé de très nombreux carnets de dessin. Et Monsieur Colin a trouvé donc les carnets. Donc, on vous en montre. Regardez comme c'est puissant, comme c'est beau. C'est bien qu'ils aient été conservés. Et là aussi, c'est incroyablement moderne. Là, c'est très japonisant. C'est très fort, très beau. Ce petit paysage là avec le pont, avec le... On dirait presque la montagne Sainte-Victoire de Manet à l'arrière-plan. Et on la retrouve plusieurs fois, cette montagne. Ah, c'est très beau aussi. Parce qu'avec peu de choses, on donne vraiment corps et vie. Là, c'est plus dans le domaine de... C'est plus le croquis, la caricature, là. Et c'est très intéressant aussi. Donc il était toujours là en train de croquer et il saisit vraiment. Ça c'est très dans le style des expositions universelles, hein, avec le noir qui était vraiment considéré à cette époque-là encore comme quelque chose d'étrange, pour garder toute proportion gardée dans les mots que je choisis. Gardez là aussi. Et là, c'est tout ça, ben, il ne peut y arriver que parce qu'il a copié les maîtres anciens. Et puis après, avec lui, avec ce qu'il est, avec ce qu'il recherche, sont très beaux ces deux portraits là aussi. Donc c'est des petits carnets où comme ça, il y a une multitude de dessins. Là, une porteuse, une lavandière, quoi. Là, elle a repassé le linge, elle le porte. Là, c'est très bon. Ça me fait dans ce carnet de croquis, là, ça me fait penser aux Amazones. Il y a qui a fait une très belle Amazone. Il y a Modigliani qui a fait une très belle Amazone. Eh bien, elle est aussi moderne, celle-ci. Aussi bien le cheval. Alors, il y a eu tous les travaux de Muybridge et puis de Marais, hein, à Bonn, qui ont beaucoup aidé. Ah, ben très bien. Donc ça parle pour. D'accord. Ça parle pour ceux qui sont ici. Alors, très bien. Alors là, la caricature pure, là. Mais regardez comment elle est cinglante, j'ai envie de dire. Alors, il a beaucoup, beaucoup fait de recherches, hein, sur les mouvements des chevaux. Très, très beau travail. Et donc, alors, au niveau des sculptures, il me reste combien de temps Je peux y aller, là? D'accord, merci. Donc c'est pareil, je vais vous commenter essentiellement la petite danseuse, hein, parce que là je vous les montre, c'est pareil, c'est des choses, voilà, c'était là où je voulais arriver. Donc cette petite danseuse qui a quand même fait couler beaucoup d'encre, évidemment. Alors en fait, il fait partie d'un groupe d'artistes tels que Géricault, Daumier, Renoir, Gauguin, qui, il y a aussi le peintre Jérôme, qui ont fait des sculptures qui n'ont pas forcément été connues de leur vivant, hein, notamment pour Degas, les sculptures ont été plutôt connues après sa mort aussi. Et la seule qu'il a présentée au public, c'est celle-ci, hein, la petite danseuse de 14 ans. Alors, elle a été exposée à la 6e exposition impressionniste en 1881. Elle fut très remarquée par les critiques, mais évidemment, pouvez-vous imaginer qu'il allait y avoir différentes réactions. Alors, elle était de taille légèrement inférieure à la grandeur naturelle, à la vraie grandeur, donc 2/3 environ. Elle était habillée d'un corsage et d'un tutu véritable. Donc là, j'ai envie de dire, on est presque dans l'art très contemporain, hein, où on introduit de vrais éléments. Tout à l'heure, je vous parlais de Tom Wesselmann, et ben voilà, hein, on y est. Elle avait donc des bas, des chaussons de danse. Elle portait une perruque de cheveux naturels, hein, nouée d'un ruban vert poireau. Ça, c'était ce qui est bien précisé à l'époque, hein, vert poireau. Degas semblait cependant désavouer ce naturalisme en présentant sa danseuse dans une vitrine. Là aussi, il la met dans une vitrine. Alors, une vitrine, on peut tourner autour, hein, c'est le but de la sculpture. Comme un précieux spécimen ethnographique au musée. Ça, c'est important. Les critiques les plus libéraux et avancés firent l'éloge de Degas, qui avait osé rejeter les méthodes artistiques surannées pour un naturalisme audacieux. La sculpture était la représentation concrète de ce que Degas avait écrit à son ami Duranty dans une lettre. « N'est-ce pas bien étrange, un sculpteur, un peintre ont pour femme, pour maîtresse, une femme qui a un nez retroussé, de petits yeux, qui est mince, légère, vive. Ils aiment dans cette femme jusqu'à ses défauts. Ils se sont peut-être jetés en plein drame pour qu'elle fût à eux. Or, cette femme qui est l'idéal de leur cœur et de leur esprit, qui a éveillé et fait jouer la vérité de leur goût, de leur sensibilité et de leur invention, puisqu'ils l'ont trouvée et élue, est absolument le contraire du féminin, féminin écrit en italique, qu'ils s'obstinent à mettre dans leurs tableaux et leurs statues. Ils s'en retournent en Grèce, aux femmes sombres, sévères, fortes comme des chevaux. Le nez retroussé qui les délecte le soir, ils le trahissent le matin et le font droit. Ils s'en meurent d'ennui, ou bien elles apportent à leur ouvrage la gaieté et l'effort de pensée d'un cartonnier qui s'est bien collé et qui se demande où il ira rigoler après sa journée faite. Et Duranty ajouta, « Peut-être quelques jours la femme française vivant au nez retroussé délogera-t-elle la femme grecque en marbre au nez droit ?» Donc Degas, eh bien, il avait réussi tout ça avec sa petite danseuse. Hein. Et évidemment, ce qui a choqué tous les critiques conventionnels, eh bien, c'était ce manque de réalisme à la façon grecque, j'ai envie de dire. Hein. Et la danseuse, je cite, était à leurs yeux laide, repoussante, horrible, vicieuse, une menace pour la société, un symptôme alarmant de la criminalité naissante et de la dégradation morale dont Degas faisait aussi preuve dans deux études de physionomie de criminels présentées à la même exposition. Donc s'il y a tant de délinquance aujourd'hui, voilà la coupable. Elle est devant vous. Non mais vous voyez un peu, et c'est dingue. Mais seulement ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on est en train de revenir quasiment à ça. On a eu une période où c'était peut-être trop laxiste, mais là on revient dans des... On va bientôt avoir des critiques de genre. On ne peut plus rien faire, quasiment. Hein. Ni en art, ni... Parce que l'art, il suit tout. Hein. L'art, de toute façon, c'est politique. Il hein, faut le savoir. Alors, bien sûr, si vous voulez... En plus, elle était en cire, hein, l'original. Elle est en cire. Alors, il avait tout faux. C'est pas noble. Attendez, c'est pas du marbre, c'est pas du bronze. Et voilà comment Manet avec son fifre, Degas avec sa danseuse de 14 ans, plus 14 ans, parce qu'il parle de femme là, 14 ans. Comment plus tard, eh bien à l'exposition, on va crier oh, les fauves là, c'est l'horreur, quoi, vous voyez. Comment, en histoire de l'art, bah, toutes ces œuvres vont être... Mais tout le génie, justement, de Degas, c'était d'avoir mis donc les vrais vêtements, les vrais cheveux, de lui avoir donné une attitude comme ça, très, très désinvolte. Hein, puis en plus, moi, c'est vrai que là, j'ai pu tourner vraiment dans l'exposition. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont vue, mais elle est adorable, cette petite danseuse. Hein, on a envie, on voudrait la voir chez soi. Là, pour le coup, on a envie, en modèle réduit, on a envie de la voir chez soi. Hein. Et puis, il a osé. Il a osé aller jusqu'au bout, mais ça, c'est pareil. Il a réfléchi et puis il l'avait mis dans une vitrine. Donc, on met sous verre la Joconde de Léonard. On met quelque chose qu'il faut vraiment protéger. De quel droit, monsieur Degas, vous mettez votre danseuse dans une exposition, dans une vitrine. Voilà. Donc, je vous la montre sous différentes... Ah ben c'est magnifique, elle est magnifique, mais vraiment je tenais à vous lire, j'essaye de vous faire le moins de lecture possible, mais là j'étais obligée de vous le lire, parce qu'il faut voir comment ça a réagi, ça nous semble complètement, c'est incroyable quoi. Alors là c'est tout ce qu'il avait travaillé avant, hein, bien sûr, pour en arriver à cette danseuse, hein. Alors moi j'avais eu la chance d'aller, je l'avais déjà vu parce que j'avais eu la chance de me rendre, ce que je vous ai lu, je l'ai tiré de cet ouvrage, qui était le Degas de la Fondation Giannada, vous savez, à Martigny. Et là ils avaient montré beaucoup beaucoup de sculptures. Ah, d'ailleurs on les a retrouvées sur des sites, mais c'est quasiment tout ce qu'il y avait dans l'ouvrage. Hein. Donc voyez comment il travaille. Mais il travaille la sculpture, voyez comme il a travaillé la peinture, comme il a travaillé la photo. C'est-à-dire que là encore, c'est laboratoire de recherche pour lui. Et moi, j'ai envie de dire, plusieurs fois, ça m'a traversé l'esprit quand on les travaillait avec Monsieur Collin, celui qui s'en rapprocherait le plus dans ceux qui ont suivi, c'est Giacometti. Moi, je pense à Giacometti, beaucoup plus que Rodin. Ah oui, beaucoup plus que Rodin. Et Giaconetti est bien sûr plus moderne que Rodin. Donc, quand je vous dis que Degas a énormément apporté à la modernité, bon, c'est pareil, là, je ne veux pas vous commenter. Je ne veux pas vous commenter les attitudes. Vous voyez par vous-même. Mais, alors, il y a carrément même des, vous voyez, comme ça, des bas-reliefs, la cueillette des pommes. Il y a Gauguin qui va s'en inspirer pour faire des bas-reliefs dans cet esprit-là aussi. Si vous regardez un petit peu Gauguin, alors bien sûr, il y a tous les chevaux. Je pense qu'on vous en remontrera des chevaux quand on va montrer les champs de course. Alors là, tout le travail sur justement les attitudes, d'après les travaux de Muybridge et puis de... Ah oui. Là, c'est vraiment du Giacometti. Moi, j'ai envie de mettre à côté l'homme en marche. On est complètement dans le... C'est d'une modernité incroyable. Et voilà, et vous avez la date. C'est ça qui est fou. Mais Degas, excusez-moi, pourquoi j'ai voulu le mettre relativement tôt dans mes interventions, c'est parce qu'on ne le connaît pas. On ne connaît pas Degas. Degas, on connaît les danseuses. Quelquefois, un ou deux champs de course. Ça s'arrête là. Et Degas, j'ai dit, ben non, il lui faut deux séances parce que Degas, ben, il est important. Il est incroyablement important. Regardez là. Ce travail extraordinaire. J'ai envie de dire, ça se regarde religieusement, quoi, parce que c'est fort, c'est beau, c'est... Et ce qui était génial, c'était de pouvoir tourner autour, quoi, bien sûr. Là, donc, les corps de danseuses. Regardez, là, ce geste. Ça aussi, c'est très moderne. Ça me fait penser, il y a une sculpture de Matisse qui est comme ça, où il, quand il avait arrêté un peu la peinture et qu'il s'était mis à la sculpture, on est aussi dans ces... Et Matisse, c'est aussi un des grands de l'art moderne et contemporain. Ça, c'est bien une attitude aussi, là. On le fait, le geste. Elle est totalement réaliste, mais en même temps, avec de la modernité, bien sûr. Et là... Là aussi, là c'est vraiment... Alors là, c'est la danseuse très élancée, très... Là aussi, c'est très... vous ne mettez pas de nom, vous ne mettez pas de date. Ça peut très bien être une œuvre de 2013, 2014. C'est incroyablement moderne. Et dans les proportions, dans tout. C'est bien parce que vous pouvez les voir dans différentes attitudes. Et... Tiens, regardez là. C'est assez incroyable, là encore. Voilà, donc nous, on s'arrête là pour aujourd'hui. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère vous avoir donné envie d'aller creuser davantage encore Degas. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci. Pas toujours.